Merci de nous suivre sur Radio Orient. Il est tout juste 17h. Le journal Nadia Benchir. À la une de cette édition, l'Iran suspend son opération contre Israël. Une annonce qui intervient après un message du président américain Donald Trump avait exhorté les deux pays à cesser immédiatement leur attaque réciproque. Au Liban, une nouvelle frappe israélienne a visé un véhicule dans la ville de Tyr. Aucun bilan pour l'instant. Cette ville a déjà été la cible de frappes qui ont causé des dommages aux ruines du site classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. En France, l'affaire Liana, Gérald Darmanin s'est réuni ce lundi avec les procureurs généraux. Le garde des Sceaux a tenu à rappeler que dans ce dossier précis, le dysfonctionnement ne relevait pas du manque de moyens. Nous l'entendrons tout à l'heure. Bonjour. Deux mois après la trêve conclue entre Israël et l'Iran, les hostilités ont brièvement repris dimanche, puis encore aujourd'hui en journée. Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles contre Israël en réponse à une frappe israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah libanais. Mais nouveau rebondissement ce lundi après-midi, l'Iran a annoncé mettre fin à son opération militaire contre Israël. Les explications de François-Xavier de Calonne.
Oui, une annonce après un message de Donald Trump. Il demandait aux deux pays, l'Iran et Israël, de cesser immédiatement leurs attaques réciproques. Téhéran a infligé une sévère riposte à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth. En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée. Voici les mots des forces armées iraniennes. Mais rien n'est pour l'instant acquis. Toutefois, en cas de pour l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises. C'est ce qu'affirme le commandement des forces armées. Parallèlement, le président iranien assure sur le réseau X n'avoir quitté ni le champ de bataille ni la table des négociations. Quant à l'armée israélienne, elle mène depuis ce lundi matin de nouvelles séries de frappes dans le sud du Liban. Le Hezbollah a revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans cette région, mais pas en Israël. Les points de divergence restent nombreux. Le contrôle du détroit d'Ormuz essentiel pour le commerce d'hydrocarbures, le programme nucléaire iranien et son stock d'uranium hautement enrichi, ainsi que le sort des avoirs iraniens gelés à l'étranger sous l'effet des sanctions. Autre difficulté, le fait d'inclure ou non le Liban dans un éventuel accord entre Washington et Téhéran. Les États-Unis s'efforcent de dissocier les deux fronts, mais Téhéran exige de son côté un accord global.
Merci François-Xavier de Calonne pour ces précisions. Direction le Liban où une nouvelle frappe israélienne a visé cet après-midi un véhicule dans la ville de Tyr, dans le sud du pays, selon l'Agence nationale d'information libanaise. Aucun bilan n'était disponible dans l'immédiat. Cette attaque intervient alors que les tensions restent vives malgré les tentatives de cesser le feu. Par ailleurs, Beyrouth s'inquiète des dommages causés aux ruines de Tyr, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon les autorités libanaises, plusieurs vestiges antiques ont été endommagés lors des frappes israéliennes de dimanche. Le Hezbollah affirme n'avoir eu aucun contact direct avec Trump, contrairement aux déclarations du président américain. Le mouvement libanais estime que Washington a peut-être échangé indirectement avec lui par l'intermédiaire du président du Parlement Nabih Berri. Le parti chiite réaffirme par ailleurs son opposition aux négociations directes entre le Liban et Israël menées sous médiation américaine. Le premier ministre libanais Nawaf Salam a rappelé de son côté que seul l'État libanais était habilité à négocier au nom du pays. Au Caire, des discussions se poursuivent entre le Hamas, d'autres mouvements palestiniens et les médiateurs égyptiens, qataris et turcs, pour tenter de consolider le cessez-le-feu à Gaza. Les échanges portent notamment sur la poursuite de l'accord, le désarmement du Hamas et la gouvernance du territoire. Malgré la trêve conclue en octobre, les violences se poursuivent et les deux camps continuent de s'accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne réfléchit à l'utilisation de 6,6 milliards d'euros destinés à soutenir l'Ukraine après la levée du veto hongrois qui bloquait leur déblocage. Ces fonds pourraient servir à rembourser les États membres ayant livré des armes à Kiev et à financer de nouveaux achats militaires, une évolution rendue possible par l'arrivée au pouvoir du nouveau Premier ministre hongrois, Péter Magyar. Au lendemain des élections législatives en Arménie remportées par le parti du Premier ministre Nikol Pachinian, la Russie accuse l'Union européenne d'avoir influencé le scrutin. Moscou dénonce également des pressions exercées contre l'opposition dans un contexte de rapprochement entre Erevan et les pays occidentaux. En visite à Pyongyang, le président chinois Xi Jinping a affirmé vouloir porter les relations entre la Chine et la Corée du Nord à de nouveaux sommets. Lors d'un entretien avec Kim Jong-un, il a plaidé pour un renforcement des échanges diplomatiques, policiers et militaires entre les deux pays. En Afghanistan, l'ONU se dit préoccupée par une vague d'arrestations de femmes à Herat pour non-respect présumé du code vestimentaire imposé par les talibans. Des habitants rapportent plusieurs interpellations menées par la police des mœurs. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, les restrictions visant les femmes n'ont cessé de se durcir. Aux Philippines, le bilan du puissant séisme de magnitude 7,8 qui a frappé l'île de Mindanao s'est alourdi à au moins 35 morts. Une douzaine de personnes sont toujours portées disparues et plus de 130 blessés ont été recensés. Les secours poursuivent leurs recherches dans les zones les plus touchées. La famille du journaliste franco-tunisien Mourad Zeridi alerte sur la dégradation de son état après son entrée en grève de la faim en prison en Tunisie. Ses proches dénoncent une détention liée à l'exercice de son métier et réclament sa libération immédiate. Ils appellent également les autorités françaises et les organisations de défense de la presse à se mobiliser. En France, les obsèques de Bernadette Chirac se tiendront vendredi à Paris en la basilique Sainte-Clotilde, conformément à ses souhaits. Un hommage lui sera également rendu ce dimanche en Corrèze, terre où elle a exercé pendant plusieurs décennies un mandat local. De nombreuses personnalités politiques et proches de la famille sont attendues pour saluer la mémoire de l'ancienne première dame décédée vendredi à l'âge de 93 ans. Après l'émotion suscitée par l'affaire Liana, Gérald Darmanin a réuni ce lundi l'ensemble des procureurs généraux. Le ministre de la Justice souhaite faire examiner près de 70 000 plaintes concernant des enfants victimes d'ici au 14 juillet. À l'issue de cette réunion, le garde des Sceaux a estimé que les dysfonctionnements constatés dans ce dossier ne relevaient pas d'un manque de moyens, mais d'un défaut de priorisation. Écoutez Gérald Darmanin.
Alors, dans l'affaire extrêmement précise de la petite Liana, oui, ce n'est pas une question de moyens. Dans cette affaire précise-là. Et c'est celle-là qui nous réunit. Je suis heureux de voir une cinquantaine de journalistes à la chancellerie. Si je vous avais fait une conférence de presse sur les moyens, peut-être qu'on aurait été moins nombreux. Donc, je prends conscience que d'abord, nous parlons de cette affaire précise. Donc, le président de la République a raison, et je veux évidemment le dire en tant que chef de mon administration, ce n'est pas une question de moyens qui a empêché la chancellerie, les services publics en général, de ne pas prendre des décisions dans ce cas précis. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Le parquet d'Auch a connu un renforcement de moyens en septembre dernier, suite notamment à l'interpellation des parlementaires, puisque un quatrième magistrat est arrivé au mois de septembre dernier. Et par ailleurs, on s'aperçoit que le process est lent, et c'est plutôt cette lenteur qui est notre responsabilité, et peut-être le manque de priorisation. Je ferme la parenthèse. Si on parle en général, ce que je ne veux pas me défiler non plus, le ministère de la Justice, structurellement, a un budget inférieur à tous les autres ministères de la Justice dans le monde occidental qui nous entoure. Est-ce que le gouvernement, sous différents ministres de la Justice, sous l'autorité du président de la République, a essayé de répondre à cette question? Je pense qu'il serait extrêmement malhonnête de répondre non. Moi, je voudrais saluer le travail qu'a fait Éric Dupond-Moretti lorsque j'ai obtenu des moyens supplémentaires pour la police et la gendarmerie à l'intérieur. Éric Dupond-Moretti a obtenu la plus grande loi de programmation budgétaire de la justice et le plus grand recrutement de greffiers, de magistrats du siège et du parquet, jamais obtenu, puisqu'on est passé de 8000 magistrats à peu près 9500 en l'espace d'à peu près 4 ou 5 ans sous l'autorité d'Éric Dupond-Moretti. Donc nous rattrapons des années et des années de ce que M. Urvoas, dernier garde des Sceaux socialiste, M. Hollande, appelait la clochardisation de la justice.
Vous venez d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, qui a par ailleurs exclu toute démission. Dans cette affaire, le principal suspect avait fait l'objet de plusieurs plaintes dans le passé sans pour autant être empêché de rester en liberté. Un constat qui relance le débat sur la prise en compte de la parole des victimes et sur le traitement des signalements. Pour Isabelle Debré, ancienne vice-présidente du Sénat et présidente de l'association L'Enfant Bleu, il est essentiel d'écouter et de protéger les enfants qui dénoncent des violences.
Il faut d'abord écouter l'enfant, il faut l'accompagner, il faut essayer d'aller vite. Vite pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas qu'un enfant ait à répéter tout ça. Il a eu le courage de parler. Il faut l'écouter, il faut l'accompagner. C'est double peine si on ne le croit pas. Encore une fois, très souvent, une victime, enfant ou plus grand, plus âgé, a besoin d'être reconnue comme une victime. Si on ne le, pour qu'il puisse se reconstruire, si on ne l'écoute pas, si on ne l'accompagne pas, c'est double peine, c'est terrible. Et aujourd'hui, vous avez vu le nombre d'enfants qui est victime, 160 000 dans l'année. Enfin, je veux dire, c'est gigantesque. Il faut absolument arrêter cette hémorragie, c'est terrible.
Que faut-il revoir dans la manière de traiter ces dossiers ? En clair, comment respecter scrupuleusement le droit français tout en le rendant compatible avec la protection effective des enfants qui dénoncent les violences ? Car il y a bien sûr le principe de présomption d'innocence qui est très important, mais qui parallèlement, la manière dont cela est traité, cela peut créer une forme de système d'impunité des agresseurs.
Tout à fait. Je pense que lorsqu'un enfant parle, d'abord, il faut le croire. Au départ, il faut faire une enquête rapidement. Il faut convoquer la personne qui, si elle est identifiée, si la personne est identifiée, il faut la convoquer. Il faut absolument lui dire qu'il est sous les feux des projecteurs. Je prends l'exemple de ce drame. Il y avait une petite fille qui avait été violée, qui avait parlé, la maman avait porté plainte, et au bout de 9 mois, il n'y avait rien eu. L'agresseur présumé, enfin il était identifié par la petite victime, n'a même pas été entendu. Ça n'est pas possible dans notre pays. Alors, il y a un manque de personnel, ça c'est certain. Je le vois par exemple, si vous regardez le nombre de procureurs, nous avons 4 fois moins en France de procureurs que la moyenne européenne. Nous avons 2 fois moins de juges que la moyenne européenne. Donc il y a sûrement un problème de personnel. Il y a certainement aussi un problème de compétence, c'est-à-dire que les personnes ne sont peut-être pas formées suffisamment, entre autres au recueil de l'enfant. Mais encore une fois, il y a des choses qui ont été faites, mais il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire.
Isabelle Debré, ancienne vice-présidente du Sénat, présidente de l'Enfant Bleu, invitée de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle ce soir après le flash de 18h. Et puis on l'a appris tout à l'heure dans l'enquête autour de l'affaire Liana, le frère de Jérôme B a été placé en garde à vue ce lundi dans le Gers. Il est visé par une enquête portant sur des accusations de viol sur mineurs, viol par conjoint, séquestration et menace de mort. Selon le parquet d'Auch, les faits reprochés auraient été commis entre 2007 et 2017. Et puis enfin, à Paris, les animateurs du périscolaire entament une nouvelle grève jusqu'au 16 juin. Ils réclament des créations de postes pour faire face aux sous-effectifs chroniques du secteur et dénoncent un climat de suspicion depuis le scandale des violences sexuelles. Des perturbations sont attendues dans les cantines et les activités scolaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Mohamed Al-Bezeri pour la mise en onde. Excellente soirée à l'écoute de Radio Orient.